Code vloss vie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 3 novembre 1999 à Saint-Jolin.
Je lis tout de suite une question. L'interrogation porte-t-elle sur une réalité ou sur une relation? On répond à une interrogation par un jugement, et un jugement compose deux termes. Le jugement a l'unité, il ne faut pas l'oublier. Les deux termes, c'est le langage. Il semble que l'interrogation exprime l'intuition d'une relation qui demande de s'expliciter pleinement dans l'évidence du jugement. Mais l'interrogation, qu'est-ce que l'homme, en tant qu'il est, porte-t-elle sur une relation, sur celle entre tel homme et son exister? Elle porte, oui, sur l'être à l'homme, sur celle de tel homme, oui, de cet homme et son exister. Ce qui rend l'interrogation vaine, n'est-ce pas de considérer toute relation comme une opposition? L'interrogation ne fait alors que manifester cette opposition et la réponse n'est qu'une tentative de synthèse. Donc je crois qu'il y a une question là d'équivoque par rapport au jugement. Et on considère le jugement comme une synthèse. Alors que le jugement est un acte propre de l'intelligence, distincte de l'appréhension. La distinction entre appréhension et jugement, c'est une critique qu'on fait. Vous avez conscience de quoi dans votre vie intellectuelle? Qu'est-ce qui suscite le jugement? Est-ce que c'est l'appréhension ou est-ce que le jugement, pratiquement, c'est votre contact avec le réel? Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a une conception entre appréhension et jugement comme une synthèse. Le jugement est une synthèse. Et ça ressort au terme. Le jugement est une synthèse et donc ça porte sur une relation. Alors que le jugement porte sur ce qui est. Ce qui est-ce que c'est une relation? Ou ce qui est-ce que ça porte sur l'acte? Une réalité qui existe. Dans une réalité qui existe, pour vous, premier contact, c'est la relation. Non. C'est cette réalité. Et cette réalité possède son unité dans son existence, avant la relation. Alors c'est ça qu'il faut essayer de saisir, c'est pas comme autre, je comprends très bien, parce qu'on a une vision critique des choses. Depuis Kant, on a une vision critique des choses, et donc la critique est première. Si la critique est première, on n'arrive plus à saisir d'exister. On ne peut plus, parce qu'on saisit toujours la relation. Alors la relation implique deux termes qui sont antérieurs à la relation. Alors ces deux termes, qu'est-ce qu'ils sont? Oui. En critique, je comprends très bien, en critique, le jugement est... C'est-à-dire, le jugement est complexe, en critique. Et ça s'exprime par le langage, et dans le langage, ceci est. Et donc, à cause de cela, au point de vue critique, je dis, le jugement ne peut pas être premier. Alors, attention, ne peut pas être premier. C'est-à-dire implique un élément antérieur. Mais je ne m'arrête jamais à cet élément. C'est dans la critique que je vais ressortir cet élément. Je montre que mon intelligence n'est pas simple. Puisque mon intelligence n'est pas simple, c'est tout à fait normal que l'acte propre de l'intelligence soit complexe. Puisque La perfection n'est jamais dans un élément simple pour moi, pour nous, dans notre vie. La perfection implique toujours une certaine composition. Il n'y a pas de perfection dans la simplicité. C'est un élément, c'est le fruit de l'analyse. Dans l'analyse, j'arrive à un premier élément qui n'est pas composé. Je ne dis pas qui est simple et qui n'est pas composé. Comme élément. Alors je crois que c'est ce point de vue-là qui fait que ça devient très complexe. Parce que l'interrogation implique un jugement, c'est sûr. J'interroge. Et quand j'interroge, j'interroge à partir de mon expérience. C'est que j'ai une vague connaissance des choses, ordinairement que j'ai apprises. C'est ça, on a appris ça, on répète ça. Puis on se trouve devant une réalité qui ne me semble pas correspondre du tout à l'image qu'on s'est faite, à la définition de la chose qu'on s'est faite, et qui fait qu'on se dit quoi ? On s'arrête. Toute interrogation implique un arrêt d'intelligence. Et quelque chose que je ne comprends pas. Si vous comprenez tout, vous n'interrogez pas. Celui qui sait tout n'interroge jamais. Il continue sa synthèse. Et tous les éléments viennent s'ajouter successivement. Il n'interroge pas. Pour interroger, il faut être en face de quelque chose que je ne comprends pas, que je ne saisis pas. Ça veut dire qu'il y a un arrêt. Je prends l'exemple, c'est l'exemple que prend Platon du reste. L'interrogation, c'est le chien de chasse qui est en face d'un fourré. Dans ce fourré, il y a une petite bête ou une grosse bête. Il y a un lapin, il y a un lièvre. Il s'arrête. Et l'interrogation, c'est l'arrêt. Il y a quelque chose, je ne le vois pas. Il est dans le fourré. Je l'ai poursuivi, et puis il s'est caché. Je ne le vois plus. Donc je m'arrête. Et quand il est en état d'arrêt, il interroge. Où est-il ? Il essaie de comprendre. Oui. Donc l'interrogation, c'est un repli de l'intelligence. Hein. L'intelligence se retourne sur elle-même. Qu'est-ce que c'est ? Donc, dans toute interrogation, il y a un élément qu'on connaît, il y a un élément qu'on ne connaît pas. Alors, c'est vrai qu'à ce point de vue-là, il y a une relation, parce que ça ne colle pas. Ce que je connais n'explique pas ce que je ne connais pas. Ce que je connais pourrait expliquer quelque chose de nouveau. Alors, à ce moment-là, je n'interroge pas. Je réfléchis, puis je vois que ça se continue. Tandis qu'au contraire, quand on interroge, c'est l'élément qu'on connaît n'explique pas ce qu'il y a de nouveau. Et alors ce qu'il y a de nouveau m'échappe et je dis qu'est-ce ? Tiesti. Qu'est-ce ? Qu'est-ce que cette chose nouvelle auquel je me trouve ? Et c'est en ce sens-là que l'interrogation m'exige d'aller plus loin. Et de reprendre, je reprends l'expérience et je reprends ce que j'ai atteint. Et l'interrogation permet d'avoir mon intelligence tendue. Et l'image de l'intelligence qui interroge, c'est l'arc tendu. Un arc qui n'est pas tendu ne peut pas envoyer une flèche. Il faut qu'il soit tendu. Par l'interrogation, l'intelligence se tend. Elle veut connaître. Et elle ne connaît pas encore. Alors elle veut connaître. Et s'il n'y a pas d'interrogation, l'intelligence n'est pas tendue. Ça passe. Et quand il y a des choses qui passent devant moi, que je ne fais pas attention, quand j'interroge, je m'arrête et je veux savoir. Et il y a toujours un élément que je connais. C'est pour ça que quand vous êtes en face d'une matière tout à fait nouvelle. Vous n'avez jamais fait de philosophie, vous avez fait de la science avant. Les sciences avant, vous ne prenez pas. Et on n'interroge pas. On n'interroge pas, puisque le discours m'échappe. Alors je ne vois pas, il y a des éléments que je connais, mais pour interroger, il faut qu'il y ait au moins déjà une relation, un rapport, quelque chose de connu et quelque chose de, qui n'est pas connu, quelque chose qui est au-dessus de ce que je connais. Alors j'interroge. Et donc, c'est l'intelligence qui veut avancer pour connaître le réel. La connaissance dialectique, à la manière de Platon, n'interroge pas. Alors Platon, au point de vue artifice, artistique, donne des dialogues, mais en réalité c'est pas une interrogation du tout. C'est tout simplement parce qu'il veut avancer, au point de vue rhétorique, il avance, il connaît, mais il fait ses interrogations qui sont des interrogations purement artificielles, qui aident pour la communication. Ce qu'on fait, ce qu'on peut très bien faire, on connaît très bien le sujet, mais on interroge exprès pour que celui qui est à côté de moi, qui ne connaît pas et qui cherche, puis se reposer. Il se repose pendant l'interrogation. Enfin, il interroge. Et on voit tout de suite si l'interrogation est une espèce de moyen artificiel pour aider celui qui est à côté de moi et qui a de la difficulté, j'interroge. Et le système dévié, c'est vrai, c'est authentique, c'est... Je présume que c'est une véritable interrogation, c'est qu'on a une expérience. Une véritable interrogation repose sur une expérience de ce qu'on connaît et quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, l'interrogation porte-t-elle sur une réalité ou sur une relation? Personnellement, nous avions vu au cours que ça porte sur ce qui est. J'interroge, qu'est-ce que c'est? Toute la philosophie repose sur cela, point de vue, point de départ, que représente l'activité de l'homme qui fabrique quelque chose. Que représente l'activité de l'homme qui pose un jugement moral. Que représente l'activité de... Et ainsi de suite, vous voyez. Là, on interroge. Puis, au point de vue spéculatif, on interroge qu'est-ce que c'est que ce devenir naturel. Qu'est-ce que c'est que le vivant? Qu'est-ce que c'est que l'être? Donc c'est toujours une réalité. La relation vient ensuite et pour une mise en ordre. Alors, une mise en ordre se sert de la relation pour voir le lien qu'il peut y avoir entre deux faits. Quel lien y a-t-il entre la fumée que je vois et le feu? Alors je cherche la relation. Et c'est vrai que quand je vois un effet, d'où ça vient, c'est une relation que je cherche, une relation de causalité. Qu'est-ce qui est antérieur à cela? Je vois le feu, quand je le vois, c'est un fait, il est premier. Je me dis, mais ce feu, il doit provenir de quelque chose. D'où vient-il? J'interroge, d'où vient-il? Et quand je saisis la cause, le feu est relatif à la cause. Alors, la relation vient après. Je vous saisis d'abord l'événement. Et l'interrogation part sur le fait, et non pas sur la relation. Parce qu'il peut très bien ne pas avoir de relation. Quand je vois quelque chose, je ne saisis pas tout de suite le lien avec autre chose qui est antérieur. Quand on fait une thèse en physique ou en biologie, en science, on cherche à partir d'un fait nouveau d'où ça vient. Alors c'est vrai, là je cherche la relation, d'où ça vient. Et quand je pose la première interrogation, qu'est-ce ? Ah, c'est pas d'où ça vient, c'est la réalité elle-même que je regarde. Mais il peut y avoir une interrogation qui porte sur la relation, ça, tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas la relation première, ce n'est pas l'interrogation première. La première interrogation porte, parce qu'elle vient de l'expérience que j'ai, et l'expérience que j'ai porte d'abord sur le fait. Je m'intéresse d'abord à l'apparition d'un fait nouveau. Je suis passé plusieurs fois dans cette route, il n'y avait pas de nuage au terme. Tout d'un coup, je vois un nuage énorme. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Alors, quand vous posez la question d'où ça vient, vous cherchez la relation causale. Quelle est la cause de ça ? Et donc, une relation peut très bien porter, une interrogation peut très bien porter sur une relation. Mais l'interrogation n'est pas toujours sur la relation. On dit qu'est-ce ? C'est cette réalité que je veux connaître. Oui. Et l'interrogation première porte sur le fait lui-même qui existe. Et l'interrogation seconde porte sur la relation. Oui. Je cherche. Et en science, c'est toujours la relation que je cherche, l'antécédent et le conséquent. Et trouver une relation de nécessité entre l'antécédent et le conséquent. Je vois le conséquent apparaît, je ne vois pas l'antécédent. Et je me demande, y en a-t-il ? Quand vous voyez une grosse fumée à l'horizon, bon, vous ne dites pas qu'est-ce que c'est que cette fumée ? Vous voyez cette fumée, oui, c'est une fumée, sûrement cette fumée, c'est la fumée d'une maison qui brûle, c'est la fumée, tout de suite, vous connaissez à la couleur, à la densité de la fumée, d'où ça vient, d'où ça vient. Et alors, je ne poserai pas, je dirais, l'interrogation peut porter sur la réalité qui existe, l'interrogation peut porter sur la relation. Nous avons vu la dernière fois qu'il y a diverses relations. Donc il y a diverses relations, elles portent sur des choses différentes. Quand vous cherchez d'où vient cet événement, vous cherchez la cause antérieure. Quand vous cherchez la question, quand vous posez la question, qu'est-ce ? Alors, vous cherchez, vous voulez analyser cette réalité qui existe. Et vous verrez peut-être que ça remontera jusqu'à la cause, c'est très possible. Mais c'est d'abord cette réalité que je cherche. Qu'est-ce ? Et je me pose la question de savoir qu'est-ce. Donc l'interrogation porte-t-elle sur une réalité ou sur une relation ? On répond à une interrogation par un jugement, et un jugement... Mais déjà, l'interrogation est un jugement. Donc je ne dis pas que je réponds à l'interrogation à un jugement. C'est sûr, je pose sur un jugement, parce que le jugement peut porter sur la relation, le jugement peut porter sur le fait qui existe. Donc vous n'expliquez rien en disant le jugement. Parce que la relation comme la réalité existante, tous les deux, je les exprime par un jugement. On répond à une interrogation par un jugement. Et un jugement compose deux termes. Alors, vous voyez, dès que vous dites le jugement compose deux termes, vous passez à quelque chose de différent, à l'analyse critique du jugement. Vous voyez ? Et vous quittez l'interrogation que vous avez posée. Donc vous êtes dans un autre domaine. Et vous posez un autre domaine. Il semble que l'interrogation exprime l'intuition d'une relation qui demande de s'expliquer. Non, pas nécessairement. L'interrogation exprime l'intuition. Si c'était l'intuition, vous ne poserez pas d'interrogation. L'intuition, c'est évident. C'est le propre de l'intuition. Quand vous êtes en face de quelque chose d'évident, vous n'interrogez pas, vous regardez. Et ça s'impose à vous comme quelque chose de très important et intéressant. La naissance de l'interrogation n'est pas l'intuition. Il peut y avoir, ce que je disais, il peut y avoir en science, et dans la recherche scientifique, il peut y avoir une intuition qui m'a semblé quelque chose d'extrêmement important, mais je veux comprendre cette intuition. Une intuition, ça s'impose. Mais il faut la comprendre. Et pour la comprendre, je l'analyse. Et c'est en analysant que vous interrogez. Donc, l'interrogation vient toujours de quelque chose qu'on connaît et quelque chose qu'on ne connaît pas. Et dans une intuition, qui est quelque chose qui me frappe, qui m'intéresse, je m'arrête. Mais l'intuition comme telle n'est pas source d'interrogation. Elle devient source d'interrogation quand, dans l'intuition même, vous découvrez quelque chose. Tiens, j'avais jamais vu cette relation entre ça. Est-ce que c'est juste? Ou est-ce que je me trompe? Parce qu'une intuition peut nous tromper. Il y a des intuitions qui peuvent être imaginatives. Même si très souvent, elles sont imaginatives. Pas toujours. Il y a des intuitions qui portent vraiment sur une réalité. Et j'interroge pour savoir si cette intuition est vraie. Et pour savoir si cette intuition est vraie, j'analyse cette intuition. Oui. Donc, ne faites pas porter. Il semble que l'interrogation exprime l'intuition d'une relation. Qu'il puisse y avoir une intuition, c'est très vrai, mais je ne dis pas que l'interrogation exprime l'intuition. Je dis que l'interrogation exprime, dans une réalité qui se présente à moi, j'avais pris l'exemple du TGV, le gosse n'avait jamais vu ce que c'était. Tiens, ah, qu'est-ce que c'est? Et réfléchissez sur vos interrogations brutales. C'est toujours un fait nouveau. Et dans ce fait nouveau, quelque chose que vous connaissez, quelque chose que vous ne connaissez pas. D'où vous interrogez. Donc l'interrogation porte plus sur l'expérience que sur l'intuition. Puisque l'intuition comme telle, d'habitude, on s'arrête. Toute intuition. Et ensuite, vous posez la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? À ce moment-là, vous l'analysez. Mais l'intuition n'est pas source d'interrogation. Au contraire, les personnes très intuitives n'interrogent plus. Elles continuent leur chemin. Vous voyez ça tout le temps. Entre vous, il y en a qui sont plus ou moins intuitifs. Et l'intuition, comme telle, me permet de continuer mon chemin. Je n'interroge personne, je n'interroge rien. C'est mon intuition, c'est vrai. Puis j'essaie de saisir ce qu'il dit. Et les personnes très intuitives, au bout d'un certain temps, n'interrogent plus du tout. Et elles suivent leur idée. C'est ce qu'on dit. Venez, vous suivez votre idée. Vous suivez votre intuition première. Et c'est une succession d'intuitions que vous enchaînez, qui font votre manière de vivre. Et alors, un ami dire attention, tu vois pas que tout ça dépend de ton intuition première. Est-ce que cette intuition première est vraie ou est-ce qu'elle est imaginative? Tu construis toute ta vie sur une imagination. Est-ce que c'est vrai cette intuition? Si c'est pas vrai, c'est très dangereux. Tu vas construire toute ta vie là-dessus. Puis tout d'un coup, ça veut dire que c'est faux. Parce que c'est pas une autre intuition qui rend mon intuition première vraie. L'intuition est une relation, ça c'est tout à fait juste. C'est deux termes qui me semblent s'imposer. Et il peut très bien se faire qu'une intuition devienne source d'une autre intuition, et d'une autre intuition, et je ne touche pas le réel. Et la vérité, c'est savoir est-ce que ceci est vrai. Et pour que ce soit vrai, il faut que ce soit conforme à la réalité. Et la réalité implique le jugement d'existence. Ceci est. Qui n'est pas une intuition. Mais c'est toute la querelle. À ce point de vue-là, c'est très intéressant. Celui qui a écrit ça, il devrait creuser tout ce que Maritain a dit sur l'intuition de l'être. Parce que pour Maritain, toute la métaphysique commence par l'intuition de l'être. Et Maritain a le souci de montrer que son intuition, ce n'est pas l'intuition de Bergson. C'est intéressant. Alors, il essaie de justifier cette intuition en montrant que cette intuition implique un jugement d'existence. considérons que lorsque je saisis, lorsque j'essaie de comprendre ce qu'est la réalité du point de vue de l'être, c'est ce jugement d'existence qui est premier. Ensuite, je peux regarder ce qu'est la relation. Donc, je n'insiste pas plus, mais c'est très important. Hein. C'est très important de ne pas construire votre métaphysique sur une intuition. Mais de voir que la métaphysique, l'entrée en métaphysique, c'est un jugement d'existence. Je suis. Quand vous dites je suis, est-ce que vous avez l'intuition de ce que vous êtes ? Non. Vous existez. C'est un jugement qui me dépasse. Parce que je ne connais pas mon être profondément. Je connais mes qualités, ce que nous allons voir. L'être, ce n'est pas les qualités. Et donc, l'être n'est pas source d'intuition. C'est la forme, les déterminations qui sont source d'intuition. Alors, autre question. Pourquoi l'ordre de l'intelligence vers le vrai est-il plus radical que celui de la volonté vers le bien personnel ? Plus radical, c'est-à-dire premier, si vous voulez, dans l'ordre génétique. C'est vrai. Mais plus radical, le bien est plus ultime et le vrai est plus radical. Je crois qu'on peut dire ça. Donc tous les deux ont une priorité, puisque tous les deux sont des transcendantaux. Qui dit être un transcendantal veut dire quelque chose qui est premier. Donc, le bien a une priorité dans l'ordre de la finalité. Le vrai a une priorité dans l'ordre de l'intelligibilité. Donc, il y a deux priorités que je ne peux jamais résoudre, sauf lorsque je découvre l'existence de l'être premier. En Dieu, vrai, lumière et bien s'identifient. Mais il n'y a qu'en Dieu. Le kalos kagagaton, les Grecs. C'est ce désir intense de voir que le beau et le bien s'identifient. C'est la grande nostalgie grecque. Et j'allais dire, c'est la grande nostalgie de beaucoup de poètes. Ils désirent que le beau soit le vrai. C'est une nostalgie extrêmement profonde qui peut être une terrible tentation. Parce qu'au fond, que le beau soit le vrai, cela n'existe que pour Dieu. Et pas pour vous. Pour nous, il y a deux choses différentes. Saisir ce qu'est une réalité, son intelligibilité, sa cuidité, ce qu'elle est, et sa bonté, c'est deux choses différentes. Et on a ces surprises quand on choisit des fruits. Une petite réalité très simple. Une pomme magnifique, je n'ai jamais vu d'aussi belle, étonnante. Est-ce qu'elle est belle ? Je voyais un peintre Paris. Il disait, il faut admirer la beauté d'une pomme. Je compte très bien comme artiste et comme peintre. Il faut admirer la beauté d'une pomme, la beauté d'un fruit. Oui, mais alors quand on passe la corbeille de fruits, ne soyez pas artiste, parce que vous resteriez comme ça, regardez. Puis le suivant dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Quand vous choisissez, pas vertueusement, hein, parce que vous pouvez choisir vertueusement, je prends le fruit qui est devant moi, je ne veux pas choisir. Il peut y avoir une certaine assaise, là, qui n'est pas toujours bonne, parce qu'il ne faut pas perdre l'habitude de choisir. Parce qu'au bout d'un certain temps, on ne sait plus choisir. Il ne faut pas le perdre. Donc on passe la corbeille. Vous pouvez très bien, dans votre sainteté qui pousse, Hier, je ne choisis pas. C'est le pourvu qui sera devant moi, je prends. Je ne sais pas. Vous pouvez, votre âme d'artiste, c'est beau. C'est toujours très beau. Oh, cette petite pomme, je vais l'ornier depuis un petit moment. Il y en face au moi. Je la prends. Elle est tellement belle. C'est beaucoup. Quelqu'un qui est très très porté par l'art, il aime mieux la voir que la manger. Permettez-moi de l'emporter chez moi pour que je puisse la contempler. La manger, c'est tellement grossier. Même un bœuf peut manger une pomme. Un animal peut manger une pomme, c'est évident. Il la regarde pas. C'est vrai, ces petites rainettes qui sont magnifiques. Regarde ça, c'est la manière dont la nature a produit ça. C'est quand il y a un petit peu de lumière, j'ai une lumière extraordinaire. J'ai plus envie du tout de la manger. J'ai envie de la voir. Puis celui qui était au début, dépêche-toi, voyons. J'ai faim. Et c'est très possible. Cette pomme qui est très belle ne soit pas si bonne que ça. Il y a des illusions. Alors quand vous transposez ça vis-à-vis des hommes et des femmes, alors là, oui, vous comprenez très bien la beauté magnifique, extraordinaire. Est-ce qu'elle est bonne, cette personne? Elle est belle. Je ne vous donne pas tous les dictons là-dessus. C'est très amusant, entre la beauté. Vous voyez, c'est très grec, ça, de considérer Kalos Kakaton. Ce qui est beau est bon. Non. Ce qui est beau n'est pas toujours bon. C'est le sens de la réclame. Dans les réclames, qu'est-ce que vous faites? Vous mentez tout le temps. Si vous êtes un grand artiste d'une réclame, vous savez très bien que c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Tant pis, il faut que ça se vende. Donc je vais montrer que c'est le plus beau, le plus merveilleux. On séduit. La beauté séduit. Et la bonté attire. C'est pas la même chose. Vous voyez, c'est très important de saisir là, les deux. Si évidemment pour vous, séduire et attirer, c'est la même chose, dans 10 ans, je vous reposerai la même question et vous comprendrez. Que ce n'est pas la même chose. Parce que vous aurez des surprises. C'est ça la surprise. Hein. C'est magnifique. J'ai choisi le plus beau bon, le plus belle pomme qui soit. Puis j'ouvre, gâté. Où il y a un verre dedans. L'expérience me montre ça, que être séduit par la beauté, c'est très bien. Quelqu'un qui n'a jamais été séduit de sa vie, il lui manque quelque chose. Il lui manque une expérience. Être séduit, c'est être séduit par la beauté. La beauté est très diverse, c'est le regard. C'est la régularité du paysage. La séduction d'un beau paysage, c'est très étonnant tout ça. Et ça ne séduit pas de la même façon tous les gens, parce que la sensibilité joue un très grand rôle dans la séduction. Tandis que l'attirance, ça c'est la bonté. On est attiré par quelqu'un qui est bon. On est séduit par la bonté. Si vous faites cette petite distinction, vous voyez tout de suite que la beauté est beaucoup plus intellectuelle que la bonté. La séduction implique l'intelligence. On est séduit par l'intelligence, la connaissance. Et quand on est séduit, on ne cherche pas la vérité. On cherche à être séduit. C'est tellement beau, tellement merveilleux. Même si c'est pas vrai, on dira c'est pas vrai. C'est... Oh mais c'est beau. C'est votre réaction splendide. C'est beau. Regardons ça, c'est beau. Alors vous avez trois choses à regarder, le vrai, le beau et le bon. Et vous voyez tout de suite que la beauté est proche de la vérité et que la beauté peut conduire à la bonté, même si normalement, c'est le rôle de la beauté, c'est de conduire. Je suis séduit pour être davantage attiré. La séduction n'est pas mauvaise en soi. Ça vous dit, il y a une expérience de la séduction qui est bonne. Il faut comprendre ce que... Il faut le comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous serez séduit et vous serez trompé. Tandis que si vous avez l'expérience de la séduction, dites oui, c'est un moment intéressant. Je suis séduit par quelque chose qui est étonnant. Je n'avais jamais vu ça. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas nécessairement bon. Et donc la beauté peut conduire au mal. Baudelaire dit ça admirablement. La beauté du démon. Le démon peut me séduire. Il se cache derrière la pomme. Et séduit. Parce que la beauté n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est beau. Elle est beauté. Dieu ne dit pas « je suis la beauté hein, », c'est curieux. Je suis celui qui ne change pas. Je suis celui qui est bon, infiniment bon. Mais vous pouvez dire que Dieu est beau, ça c'est sûr. Et Dieu peut nous séduire. De temps en temps, c'est la seule manière pour Dieu de nous avoir, c'est de nous séduire. Et nous séduire par sa beauté. Alors c'est une beauté qui conduit la bonté. Oui, alors, c'est la réflexion là-dessus qui doit nous aider à comprendre que la bonté, quand il s'agit de la bonté spirituelle de la personne, implique la connaissance. Implique une connaissance qui demande d'être vraie. Puisque la vérité, c'est la perfection de la connaissance. Alors, vous pouvez par là comprendre que la bonté spirituelle, il faut la connaître pour être attiré. Je ne suis jamais attiré vers la bonté d'une personne vers la bonté d'un fruit si je ne le connais pas. La connaissance est nécessaire. Elle est antérieure à l'amour. C'est pour ça que le vrai est antérieur au bien. Et ça, c'est par rapport à moi, vous voyez. En soi, le vrai et le bien sont convertibles avec l'être. Sont convertibles avec l'être, sont des modalités propres de l'être. Tout être en tant qu'il est vrai. Tout être en tant qu'il est bon en soi. Mais il peut très bien ne pas être bon pour moi. Si, justement, il s'identifie pour moi une séduction. Alors à ce moment-là, c'est une tentation. Je me suis arrêté à cette bonté qui n'était pas la bonté absolue. Mais c'était quand même une bonté. Donc vous voyez, c'est à cause de ça que le vrai est antérieur. C'est que si vous réfléchissez sur vos expériences, vous ne pouvez aimer une personne d'un amour spirituel que si vous la connaissez. Et vous pouvez être séduit par quelqu'un. Vous dites, ah, je désire te connaître. Je suis attiré vers toi. Alors oui, je désire te connaître. Je suis attiré vers toi. Il y a donc une attraction première naturelle qui provient presque toujours d'une séduction. Je suis attiré. On devrait presque dire, je suis séduit par toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis séduit. Il y a quelque chose en toi qui m'attire, qui me séduit. Et pas du tout le voisin qui est à côté. Pourtant, il a la même taille, il a le même poids, il a la même orientation religieuse. Non, je ne sais pas pourquoi. C'est irréductible. Dans la bonté et qui attire, il y a quelque chose d'irréductible. Quelque chose que je ne peux pas analyser, qui dépasse toute analyse. Une expérience de l'amour. Et vous apercevez à ce moment-là que toujours la connaissance est antérieure à un amour spirituel. Pour découvrir le bien spirituel de la personne, il faut connaître. Alors, l'amour permet à la connaissance d'aller plus loin. Oui, c'est pour ça que c'est toujours de l'un à l'autre. Grâce à l'amour, vous pouvez avoir une connaissance intime de la personne qui vous attire. Et à ce moment-là, vous avez comme une double séduction. La séduction de quelqu'un qui, intérieurement, vous semble admirable et extérieurement, qui vous séduit par sa beauté, par son élégance, par sa lumière. C'est très curieux, les séductions. Mais c'est très important, bien distinguer, oui, et de bien comprendre que vrai et bonté sont des réalités qui transcendent. Il y a quelque chose d'absolu. Et cependant, par rapport à moi-même, il y a un ordre. La connaissance est antérieure à l'amour. Mais l'amour permet la connaissance aussi. Vous voyez, ça va et vient. Ce petit gosse qui disait à sa mère, après le premier cours, on lui donnait d'arithmétique, il dit à sa mère en rentrant, « Maman, le maître de l'arithmétique qu'on nous est donné, c'est un imbécile. » Et alors le maître dit « Pourquoi ?» Il a dit « 1 et 1, 2. » Or, « 1 et 1, c'est 1. » Ça n'avait plus couru. Alors, elle trouve l'idée, elle lance une balle. Et puis une seconde balle, tu vois, une balle, une seconde balle, ça fait deux balles. Oui, mais le maître n'a pas dit ça, il a dit un et un. Un et un, c'est un. C'est l'identité, c'est un. Il n'a pas dit l'identité, mais un et un, c'est un. Alors la mère se dit, il doit y avoir quelque chose qui fait que le maître d'arithmétique n'est pas sympathique à mon fils. Il doit y avoir une antipathie radicale pour que un et un ne fassent pas deux. Là, elle va le trouver, le maître. Et le maître dit tout de suite à votre fils, mais il ne comprend rien en mathématiques. Mais ça, j'avais vu ça tout de suite, il ne comprend rien. C'est un poète, on ne comprend pas du tout. Alors sa mère revient et dit, je comprends. Et c'est très vrai, psychologiquement, on le sait très bien. Des antipathies ferment complètement à l'intelligibilité qu'on pourrait avoir de quelqu'un. C'est très curieux ça. Alors là, on dira, voyez, l'amour est avant. L'amour permet d'aller plus loin dans la connaissance. Vous avez une connaissance affective et aimante. Et vous voyez, les interrogations pour découvrir le vrai, pour découvrir le bon, ne sont pas les mêmes. Le bon, c'est ce qui m'attire. C'est ce qui me finalise. Je suis finalisé par la bonté. Par le vrai, je ne suis pas finalisé, mais je deviens intelligent. Et me perfectionne aussi. Il y a deux manières de se perfectionner, par l'intelligence et par la bonté. Et c'est deux perfections tout à fait différentes. La perfection de quelqu'un qui est très finalisé et qui est bon par le bien qu'il l'attire. Et au contraire, on se perfectionne en connaissant. Parce que la connaissance implique une immanence. Si la connaissance, donc le vrai, implique une immanence, je suis parfait du côté de l'intelligence. Mais je peux très bien être parfait du côté de l'intelligence et avoir une peine énorme à me donner. Et donc, les rapports entre la recherche de la vérité et la recherche de la bonté sont des rapports essentiels pour l'équilibre foncier de la construction de ma personne. Et là, Thomas d'Aquin a donné une loi pédagogique merveilleuse. Pour toutes les réalités qui sont inférieures à moi, il vaut mieux les connaître que les aimer. Pour toutes les réalités supérieures à moi, il vaut mieux les aimer que les connaître. Ça, c'est... Si on suit cela, dans ces examens de conscience, vous construisez votre personnalité. Et vous la détruisez dès que vous prenez l'inverse. Ça, c'est... Vous voyez, c'est pour ça que c'est si tellement important, les rapports du vrai et du bien. Pas du tout indifférent. Je ne peux pas être indifférent à ça. C'est capital. Et au point de vue spirituel, ça fait deux spiritualités tout à fait différentes. Mais, quand quelqu'un me dit, et qui est chargé de la direction spirituelle, peu importe la philosophie que comme mon pénitent, sans aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il soit bon et qu'il aime. On a envie de lui répondre. Quand c'est quelqu'un de très éminent, on se tait. Et quand c'est quelqu'un auquel on peut répondre, on dit « Ah, pas du tout ». Toute erreur consentie arrête l'amour. Tout. Toute erreur consentie, c'est-à-dire vivre sur une imagination. Vivre sur une imagination arrête la perfection de quelqu'un. Il empêche d'aller jusqu'au bout. Toute erreur consentie, parce qu'on peut avoir des quantités d'erreurs portées en soi, cela, ils ne sont pas consentis. C'est, on a appris ça, on nous l'a dit, bon, jusqu'au jour où on a compris que c'est faux. C'est très bien, ça ne joue pas de rôle. Et toute erreur consentie, je sais que c'est pas vrai, mais c'est ce que j'ai découvert et je reste à cela tant que j'aurai pas découvert autre chose. Eh bien, toute erreur consentie arrête le développement de l'amour. Et toute haine consentie portant sur la personne, pas sur le mal, je hais le mal. Mais toute haine consentie à l'égard d'une personne empêche l'intelligence de progresser. Et là, on voit bien, ça se tient dans la croissance. Dans la croissance, qu'est-ce qui est le meilleur? Est-ce qu'il faut développer la recherche de la vérité ou développer le point de vue de la bonté? Vous savez bien, là, deux spiritualités différentes. La spiritualité qui met l'amour au-dessus de tout, et puis la spiritualité qui met la vérité au-dessus de tout. En réalité, on ne peut pas les séparer. Si vous êtes dans la vérité, toutes les réalités inférieures à moi, il vaut mieux les aimer, les connaître. Toutes les réalités supérieures à moi, Dieu et le prochain. Parce que dans le prochain, il y a toujours quelque chose, en tant qu'il est le prochain, quelque chose qui me dépasse. Toutes les réalités qui sont supérieures à moi, il vaut mieux les aimer que les connaître. C'est très beau, ça. C'est pour ça qu'en dernier lieu, la contemplation de Dieu fait toujours passer l'amour. Tandis que, lorsqu'il s'agit de réalité inférieure à moi, je n'ai pas le droit de faire que mon cœur soit captif d'une réalité qui est inférieure à moi. Dis-moi qui tu es, qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. l'amitié vis-à-vis de quelqu'un qui est moralement inférieur à nous. Si nous fréquentons de trop, nous baisserons. Si au contraire, nous fréquentons quelqu'un qui moralement semble bien supérieur à moi, je vais l'aimer en le voyant. C'est capital pour nous, ça. Et cette espèce d'auto-éducation intelligente qu'on doit avoir.